Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au nouveau rendez-vous au Énervé qui compte double, vous le savez, chaque soir. Dès 18h, vous pouvez nous écouter en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis 22h minuit, vous nous retrouvez à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, une émission Star 80, le retour. Et c'est vrai que cette année, on a fait la tournée des podiums en recevant deux chanteurs au parcours hors normes et aux tubes imparables. Plastic Bertrand, ça plane toujours pour lui, et Patrick Hernandez, vraiment born et bien alive. Patrick Hernandez nous avait même rejoué en live son tube disco en version folk. Et c'est Daniel Gilbert qui l'avait annoncé à sa manière style Midi Première. Midi Première qui faisait alors un retour gagnant, non pas à la télévision, non, au Casino de Paris. Daniel Gilbert était face à ses idoles, Mike Brandt, Joe Dassin, Coluche, Claude François, Dalida... Ça ne nous rajeunit pas. Dalida, pourtant, que reprend même la nouvelle génération, Marion Guilbeault.
Oui, et c'était Cléa Vincent qui avait mis de l'or dans ses cheveux et dans sa voix pour une chanson live de Dalida ce soir-là.
Et dans le Énervé la suite, ce soir, on retourne pour la seconde fois à la Terre avec des invités qui nous avaient bien prouvé que le bonheur est dans le pré, Benoît Lagan.
Oui, à quelques jours du Salon de l'Agriculture, on s'intéressait à un ex-fonctionnaire fils d'agriculteur, une graphiste parisienne et un commercial qui ont tous fait le choix de reprendre le chemin de la ferme avec nous. La documentariste Delphine Détry, l'écrivain journaliste Bernard Olivier, le maraîcher restaurateur Alexandre Mirmont et un éleveur, Laurent, qui a créé, tenez-vous bien, un cabaret dans sa ferme. Il s'appelle David Comet.
Le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
C'est manifestement très télévisuel ce soir, ce Énervé avec vous, Daniel Gilbert, qui avait été notre Marianne de Midi Première dans les années 70-80, et puis vous, Patrick Hernandez, l'homme d'un tube qui a changé votre vie pour le meilleur et pour le pire. Je me souviens très bien de ce que vous écriviez dans votre autobiographie. On vous avait déjà reçu ici à cette occasion. Exactement. Vous vous connaissez, bien sûr, tous les deux.
Très bien.
On se connaît très bien, oui, effectivement.
Vous, vous avez fait des émissions ensemble?
Bien sûr.
De très bonnes émissions, d'ailleurs, entre parenthèses. Et une qui passe en boucle, d'ailleurs.
Pour quelle raison elle passe en boucle?
Parce qu'elle était franchement pas mal.
Et puis toi, t'avais comme danseuse, t'avais Madonna à un moment donné.
Oui, tout à fait.
Pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé à chacun des sons qui vous ont marqué, un son d'époque pour vous, Daniel Gilbert. Le moteur d'une Fiat, c'est ce que vous nous aviez demandé.
Oui, parce que ma première voiture à Paris, ça a été la Fiat, une petite Fiat 500. Et j'ai maintenant la petite fille de celle-là. J'ai eu encore une Fiat 500.
C'est avec cette voiture que vous êtes partie du Cantal, de Clermont-Ferrand?
Non, d'abord, c'est pas...
Je sais, c'est pas la même chose.
C'est pas le Cantal.
Non, parce que moi, je viens du Cantal, c'est pour ça.
C'est vrai, tu viens d'où?
Saint-Flour.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
La place d'armes.
Exactement.
Les magasins Jarlier. Ah non, mais attends. Vous permettez qu'on discute un peu d'Auvergne?
L'hôtel de l'Europe, c'est vraiment Midi Première. L'hôtel de l'Europe,
il y a les orques. Il y a un Christ noir ou une Vierge noire, me semble-t-il, à Saint-Flour. Hein.
Il faudra faire une émission sur place, oui. Comme on pouvait le faire avant. C'est avec cette voiture que vous aviez gagné Paris à l'époque?
Pas du tout. J'ai même pris l'avion. D'accord, l'aéroport de Clermont était une cabane en bois. Maintenant, c'est
ça va mieux.
Oui, maintenant, ça va beaucoup mieux. Il n'y a toujours pas le TGV. Avec trois présidents de la République auvergnat, il n'y en a pas un qui a envoyé le TGV à Clermont. C'est pas normal.
Pourtant, vous en avez soutenu un.
Non, je ne l'ai pas soutenu. Je lui ai fait jouer de l'accordéon.
Bon, on va en parler tout à l'heure.
C'est différent.
Un bruit. Oui, bien sûr.
On va remettre
le port de malheur. Oui. Un bruit de voiture encore pour vous. Patrick Hernandez.
Oui, ça, c'est New York. C'est typiquement New York. Ouais.
Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là?
Bah écoutez, j'allais vendre ma salade aux États-Unis, ça s'est pas trop mal passé. Et effectivement, quand on arrive là-bas et qu'on entend ça, on a l'impression d'être dans un film. Parce qu'on a vu ça au cinéma. Ça, c'est comme les montagnes de l'Arizona, c'est comme les cactus avec leurs trois branches de l'Arizona. Ce sont vraiment des images qu'on a vues que dans des films. Et quand on est là-bas, on est complètement émerveillé.
Born to be Alive, ça a fait quel score aux États-Unis?
J'ai été numéro un aux États-Unis.
Pendant combien de temps?
Pendant quelques semaines. Et ça, c'est assez rare pour un,
pour un français
effectivement. J'ai reçu un très très joli disque d'or américain et c'est à New York, justement, au cours d'une audition de danseurs et de chanteurs que j'ai rencontré, la célèbre, qui n'était pas célèbre à l'époque, la célèbre Madonna, effectivement. J'ai passé beaucoup de temps pour faire la promo aux États-Unis parce que c'est un grand pays et qu'on est obligé de d'y passer du temps. Donc j'ai presque passé un an là-bas à faire de la promo dans tous les États.
Il y a pire, hein, Patrick.
Oui, non, il y a pire. De toute façon, vous avez passé votre temps à faire de la promo sur ce titre
en Islande, hein,
pendant des années. Pendant des années, vous avez fait de la promo de ce titre.
Voilà, en fait, ça a commencé en 79, ça a fini en 81 au Chili. J'ai commencé en Italie, j'ai fini au Chili 3 ans après, juste pour la promo de ce titre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le support ou très peu de support de clips, et donc on était obligé de se balader dans toutes les capitales du monde pour aller vendre son disque.
C'est bien mieux parce qu'on voyait l'être humain.
Oui, puis moi je voyais du pays, c'était pas mal.
C'était pas mal non plus.
NRV, le nouveau rendez-vous.
Oui, ben maintenant nous allons écouter, et nous on a le privilège de le voir, Patrick Hernandez qui va nous offrir une version particulière de Born to be Alive.
C'est à vous.
Suitcase and an old guitar, something nearly occupied my mind. My mind. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born.
Patrick Hernandez, accompagné d'Erwan Anadon.
Patrick Hernandez qui nous rejoint, qui
court. Oh là là, il court à une vitesse.
Il faut dire qu'il a un marathon, hein. Star 80,
ça fait le marathon.
Ça dure depuis combien de temps avec vous?
Alors écoutez, la tournée existe depuis 12 ans, la chanson depuis 40 ans, et la tournée Star 80 depuis 12 ans, avec le même succès, et nous sommes absolument ravis de vivre tout ça ensemble.
Mais j'imagine que ce n'est pas du tout cette formule-là que vous avez choisie quand vous allez chanter dans les stades, dans les Zéniths de France, c'est pas cette version-là?
Non, la version, je chante la version originale et je commence bien évidemment le spectacle avec cette chanson, puisqu'il faut quelque chose qui rassemble tout le monde et qui soit énergique. Donc effectivement... La version connue de Born to Be Alive,
celle-ci
prête, vraiment, vraiment.
Je voulais vous faire entendre une version que je viens de recevoir de Born to Be Alive.
Oh non, pas une de plus.
C'est Das Kapital, ça vient de sortir sous le label Bleu, c'est une formation de jazz. Comment vous écoutez ça ?
Avec plaisir, en tout cas j'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir ce que font les gens sur cette chanson qui me tient vraiment à cœur.
Le pire, ça a été quoi ?
Oh, il y a le pire, je dirais pas le pire, mais il y a des trucs qui sont marrants. Les Flamands, on avait fait une version un peu légère.
Et le meilleur alors ?
Ah, je crois que
Allez.
Il y a une version légèrement bossa nova qui a été faite par une chanteuse italienne qui s'appelle Andrea Celeste, que je trouve vraiment magnifique. Et c'est marrant, en ce moment, toutes les versions lentes, il y en a beaucoup, de Born to Be Alive, marchent très bien. Commercialement, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles sont réussies. Celles qui sont moins réussies, à mon avis, ce sont les versions qui s'approchent de l'original.
Qui sont presque trop littérales.
Voilà.
Au départ, ce n'était pas d'ailleurs une version disco. C'est un producteur, une usine à tubes qui a fait que ça soit une version disco.
Oui, il y a eu trois versions en fait de Born to Be Alive. Il y en a une en 73 qui ressemble...
Qui est un peu comme celle-là, j'imagine.
Un petit peu dans cet esprit acoustique. Ensuite, il y a une version rock en 75 qui n'a pas fonctionné du tout. Et en 78, un producteur belge, Jean Van Loo, qui était effectivement un producteur de tubes, a eu une idée un peu saugrenue. Au départ, je ne voulais pas le faire parce que ça ne m'intéressait pas du tout.
Ouais, le disco, ce n'était pas du tout
le
votre...
Le disco, ce n'était pas ma tasse de... Du tout.
Tu regrettes pas, hein, aujourd'hui?
Non, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est ce qu'on dit.
Moi, j'aurais bien changé d'avis aussi. Hein.
Moi, j'aurais bien changé d'avis.
255 millions d'exemplaires vendus, même si vous n'avez pas tout touché.
Bah,
si. 255 millions d'exemplaires vendus dans le monde.
C'est effectivement la chance.
Mais c'est fait avoir par ses producteurs.
La chance que j'ai avec cette chanson, c'est qu'elle a dépassé les frontières de l'Hexagone.
Oui, ça, on peut le dire.
Et on a vraiment fait un carton plein partout. Et j'en suis l'auteur, le compositeur, l'interprète, l'éditeur et le producteur.
Oui, maintenant. Mais à quel moment vous avez récupéré d'ailleurs les droits de cette chanson? Parce qu'au départ, ça s'est pas passé comme ça. Vous avez été floué par les producteurs,
rien touché.
Et ouais.
Tout à fait. Donc j'ai mené procès pendant assez longtemps. J'ai récupéré petit à petit les choses qui, ceci étant dit, qui m'appartiennent, puisque finalement, il arrive un moment où l'éditeur, sur une chanson comme Born to Be Alive, ne fait plus que de la gestion passive. Il attend derrière son téléphone que les choses se passent.
Qu'est-ce que j'aimerais attendre derrière un téléphone?
Oui, ça représente à peu près 40% des droits d'auteur de la chanson, donc c'est absolument énorme. Donc j'ai récupéré tout ça, et voilà ce qui me permet de voir l'avenir avec...
Une certaine sérénité,
effectivement.
Oui. Juste une question, je crois savoir que normalement, cette chanson devait faire partie de la BO de Kill Bill de Tarantino.
Exact.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé que les héritiers de mon producteur qui est décédé en 2000...
Jean Van Loo,
ne sont pas d'accord les uns avec les autres, que c'est toujours très très compliqué de travailler avec eux. Et notre ami Tarantino voulait impérativement la version originale qui appartient encore à cette famille. Moi, j'ai une version à l'identique que j'ai réalisée dans les années fin des années 90, début des années 2000. Et donc, elle est vraiment identique, celle que j'ai faite. Mais il voulait, par souci vraiment d'authenticité, vraisemblablement, avoir la version originale. Et donc, le deal s'est pas fait parce qu'il y avait un crédit qui n'était pas énorme. On le sait, sur les films, on touche pas grand-chose. Mais moi, pour être sur la BO de Kill Bill, je lui aurais carrément donné.
J'aurais payé, bien sûr. Je peux imaginer.
Donner. Et les héritiers donc, du producteur ont été un peu gourmands. Et il les a envoyés paître. Et il a pris un autre type disco qui s'appelle Don't Let Me Be Misunderstood.
Qui est pas mal, mais c'est quand même pas mal.
On est loin de l'artistique, là.
Et c'était pendant la bataille au sabre, à un moment, que devait passer ce titre. Je le regrette amèrement.
Qu'est-ce que vous racontez quand vous arrivez sur scène, donc dans les Zéniths, dans cette tournée? Vous dites quelque chose ou simplement vous chantez sur Star 80?
Alors,
Patrick Hernandez, vous avez la canne ou pas?
Oui, bien sûr.
Bon, la canne, d'accord. Vous êtes fringué comment?
Alors, je suis fringué. L'année dernière, j'étais en kilt. Pendant 14 mois, kilt, chapeau melon, enfin un truc un peu rock'n'roll, quoi.
Et maintenant?
Et cette année, non, j'ai un manteau un peu particulier, un peu bariolé, des Rangers, un truc un peu rigolo. Et en fait, le propos de Star 80 pour nous, les chanteurs qui composons cette tournée, c'est bien évidemment de chanter pour moi, Born to Be Alive, ou pour Jean-Pierre Madère, Macumba, bien évidemment, ou Sabrina, ouais. Boys. Mais on nous fait faire des exercices de style qui sont très sympas. C'est-à-dire que on monte un spectacle sur les années 80 et on doit en duo, en trio, ouais, ou seul ou en collégial interpréter des chansons qui nous plaisent des années 80.
Des chansons des autres. Alors vous interprétez ça, vous interprétez qui?
Alors cette année, je fais Quelques mots d'amour de Michel Berger pendant un passage qui s'appelle le piano voix, où on est seul face au public juste avec un piano, avec Alec Mention qui nous accompagne. Je fais Tomber pour la France d'Étienne Dao. On chante Sauver l'amour en collégial pour commencer le spectacle de Balavoine. On finit sur Laissez-nous chanter de Gold. Enfin, voilà, ce sont des exercices de style. Sabrina chante J'ai vu, elle chante une chanson de Rita Mitsouko. Enfin, on monte un spectacle.
Elle doit chanter Marcel Baila, hein, parce que à cette époque-là, si on reste dans le très fédérateur,
non,
ça peut être ça.
Non, c'est Johnny Jamison qui chante cette chanson.
Ah, bah c'est super.
C'est sublime, vraiment.
Je vous posais cette question sur comment vous étiez habillé, parce que je crois savoir qu'à un moment donné, vous avez joué nu derrière un drapeau de l'Union Jack.
C'est une histoire.
C'était pas dans Midi Première, ça.
Ben non, mais il avait une tenue qui était super, avec son chapeau et tout. Ouais. Très chic.
Alors c'est une histoire, oui, c'est une histoire qui vient du bal et du Périgord. J'ai fait longtemps du bal pour me faire les crocs quand j'avais une vingtaine d'années. Et effectivement, je crois que c'était à Bord-les-Orgues, me semble-t-il, un jour pour narguer un peu par défi. En fait, je me suis foutu à poil et je me suis enveloppé dans un Union Jack. Et à l'époque, on chantait des chansons de Led Zepp, des chansons des Cream, des chansons de anglo-saxonnes pour la plupart. Et donc, ça a fait un scandale terrible. La moitié de la salle voulait me casser la gueule. L'autre moitié de la salle voulait que je revienne l'année d'après. Et donc, effectivement, on est revenu l'année d'après. Mais je suis revenu en costume.
Oh, déception.
Même pas en kilt.
Même déception.
Non, le kilt, c'était l'année dernière.
Star 80 avec Patrick Hernandez et bien d'autres. Ce sera au Stade de France le 18 mai, à Lyon le 1er juin, aux Arènes de Nîmes le 20 juillet. Je n'oublie pas, bien sûr, la tournée des Zéniths partout en France. Et je rappelle que l'autobiographie de Patrick Hernandez, Alive, est parue chez Mareuil Édition.
Rendez-vous.
Et on repart en live avec notre héroïne à nous, Cléa Vincent, Marion Guilbeault.
Ah ouais, une Cléa Vincent qui apporte vraiment de la fraîcheur, des paillettes à la pop française avec ses chansons synthétiques, mélodiques. Sa voix de poupée, mais une poupée indépendante qui a pris son destin de musicienne en main. Cléa Vincent, c'est une activiste de la chanson, toujours en mouvement, beaucoup de concerts, beaucoup de soirées, beaucoup de partage, beaucoup de voyages en autobus jusqu'en Normandie. Dans son dernier album, Nuit sans sommeil, elle questionne son désir, ses sentiments et nous fait danser jusqu'au bout de la nuit, bien sûr. Thank you.
sans sommeil.
Léa Vincent, Nuit sans sommeil, elle sera en concert aussi à Épinal, à Hérouville, à Antibes. Et rappelez-vous Laurent, il y a 2 ans, elle était venue participer à une émission autour de Dalida. C'était au moment de la sortie du film de Lisa Azuelos. Et on lui avait passé commande d'une reprise. Elle avait relevé le défi avec Femme et la nuit. Et tellement bien relevé que ce titre est aujourd'hui au programme de son dernier album, Nuit sans sommeil. C'est notre première commande à nous dans le NRV à se retrouver enregistré et gravé.
Comme un cœur qui bat.
Femme et la nuit, Dalida, dans la voix de Cléa Vincent dans le NRV.
Qui était en live, donc, dans notre émission. Dalida, justement, c'était l'une des idoles de Midi Première. Vous savez, l'émission culte que Daniel Gilbert faisait revivre sur scène en mars dernier au Casino de Paris. À cette occasion, elle était notre invitée avec Patrick Hernandez. On la retrouve tout de suite.
Tu veux bien nous offrir encore une chanson ?
Volontiers.
Puis à très bientôt, hein. Tu n'oublies pas de revenir à Midi Première. Il y a toujours une chanson, c'est la dernière chanson de cette émission que va vous interpréter Dalida, ici sur la place Émile Goudeau. Les enfants, rendez-vous, d'accord ?
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
C'est un élan, c'était la guerre, dans la gare du
quai. Eh bien, il faut vous dire qu'il y a eu un problème, ça vous vous en doutiez, vous l'avez entendu brusquement. Le disque s'est emballé, il avait peut-être faim, en tout cas je ne sais pas, il a tourné certainement à une vitesse beaucoup plus rapide. Je pense que cette fois, nous aurons la chanson de Dalida dans la bonne vitesse. Il y a toujours une chanson.
Il y a toujours une chanson.
Vous vous souvenez de ce playback complètement raté de Dalida ? Parce qu'en plus, ça va recommencer, ça n'en finissait
pas. Non, mais
pas
vous savez, j'ai une super mémoire. Hein. Ouais. Et donc, je m'en souviens très bien. Et mais, vous savez... C'était tout le temps de l'improvisation, une demi-heure par jour d'improvisation. Et moi, j'étais un peu triste quand il n'y avait pas de grain de sable. Parce que c'est tellement amusant d'avoir à improviser.
Ah
ben,
il y en avait
plein. Non, il n'y en avait pas tant que ça.
Non, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, parce que sur Facebook, on peut regarder des choses.
Moi, je vous parle en connaissance de cause, hein. Vous savez pas mieux que moi.
On a tous eu le cas, c'était des bandes en 19 ou en 38. Et souvent, il y avait une erreur quand on arrivait avec une bande.
Oh,
c'est arrivé pratiquement à tout le monde, ce genre de gag.
Ouais.
Mais
Gilbert,
nous,
ouais.
Une fois, on avait quatre caméras quand on était à l'extérieur. Une fois, on en a eu trois, puis deux, puis une. Enfin, on a pu finir l'émission quand même. On a joué avec ça. Mais c'était super sympa.
Bah ouais.
Moi, j'adore improviser maintenant. Pratiquement tout est enregistré. Après, on coupaille. C'est plus la vie. Moi, je trouve que ce qui est bien dans les émissions de divertissement, c'est qu'elles soient en direct parce qu'on a le même vécu à l'antenne que ceux qui regardent. Et ça crée déjà un lien plus fort.
Ah bah oui. Moi, je me souviens d'un accident, notamment sur un plateau improvisé, toujours les plateaux que vous aviez dans les villes et villages de France. Ringo qui jetait à terre un manifestant anarchiste. Vous vous souvenez de ça?
Un manifestant anarchiste, ça fait bien. Non, il faut, je rétablis la vérité.
Quand même, on le voit avec une espèce de banderole,
oui,
avec
mais
le cinéma.
Justement,
anarchiste.
Vous n'avez pas ce qui était écrit dessus. Hein.
Ah, il y avait marqué
alors,
quoi?
Alors, donc,
Gilbert.
Monsieur. Non, pas du tout. Il y avait. Donc Ringo qui chantait « Je t'aime, je ne me battrai jamais ». Puis il était costaud quand même.
Ah, il était super beau.
Et puis tout d'un coup, oui, c'était un
super
beau mec.
Beau, ouais.
Hein, et il était... Ah ben c'est bien, il vous a plu. Alors oui. Donc, et puis il y en a un qui arrive, les cheveux hirsutes, avec une banderole. Il y avait un manifestant, c'était à Dôme, en Dordogne.
Mais vous vous souvenez de tout, c'est fou.
Oui,
quand même.
Oui, j'ai une bonne mémoire, ouais. Mais je fais pas exprès. Et donc, il passe devant Ringo qui chantait. Juste au moment où il chante, je ne me battrai jamais. Et il met, je déteste la télé.
Ah, c'était ça qui avait marqué.
Oui, c'est tout.
Oh,
c'est tout. Il y en avait qu'un. Il y avait un manifestant. Je déteste ou je n'aime pas la télé. Et Ringo l'attrape en disant, je ne me battrai jamais. Il le plaque au sol.
Le plaque au sol. La caméra filme tout ça. C'est ce qu'on veut pas entendre.
On a rigolé.
Non, c'était vraiment excellent. Midi Première, c'est la télé. Aujourd'hui, c'est un spectacle. On va y revenir au Casino de Paris, mais avant, tout a commencé sur France Inter pour vous. France
oui,
Inter.
Clermont-Auvergne.
Exactement.
D'ailleurs, la première fois que je suis arrivée à Paris, j'ai entendu des techniciens qui disaient « Tu te rends compte, elles viennent de Clermont-Ferrand ». Enfin, je vous parle d'un temps quand même qui date, hein, j'ai quelques heures de vol, c'est pour ça.
Donc, commencer sur France Inter, de retour dans notre maison en fait aujourd'hui alors.
Oui, mais vous savez, c'est vraiment le destin qui m'a fait faire ce métier, parce que moi je rêvais pas du tout d'être connue, j'étais beaucoup trop complexée, beaucoup trop timide. Et comme je voulais être prof à la fac, j'ai fait un peu de théâtre amateur avec une copine.
Ouais, pour vous décoincer un peu.
Pour me décoincer un peu, oui, c'est joliment dit. Donc, je me suis décoincée dans la trompe. Le crade.
Elle s'appelait vraiment comme ça, mais c'est pas possible.
Mais c'est pour vous que je le dis. Parce que sinon, ça veut dire le Centre régional d'art dramatique de Clermont-Ferrand.
Mais
voilà.
Vous avez choisi le crade. C'était parfait comme.
Mais non, c'est la.
C'est les initiales, mais j'ai bien
tu
compris.
Tu comprends, Lolo?
Oui, j'ai bien compris. Bon, moi aussi, j'ai fait des études. Moi aussi, j'étais professeur.
T'as été professeur aussi en quoi?
Oui, en lettres.
En lettres?
Oui, enfin, en
classique
en
ou moderne?
Classique.
Ben, comme ma maman.
Très bien.
Voilà. Très bien. Donc, ben, je suis bien contente. Alors, attends.
Oui. On va quand même parler de ce qui se passe au Casino de Paris ou pas?
Ben, quand même. Hein. Ouais. Non, mais je veux juste dire que moi, c'est un jour, ils sont venus chercher quelqu'un pour remplacer la speakerine de la radio pendant 15 jours. Moi, j'avais mon sujet de diplôme, j'avais mon poste de pionne, j'avais ma bourse, j'avais tout. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Remarque, le poste de pionne, c'était à Moulins. C'est pas la ville la plus gaie du centre de la France non plus, mais elle est très belle. Et donc.
Ah bah là, on reconnaît Daniel Gilbert. Vous ne pouvez pas dire du mal. Bon, c'est pas la ville la plus belle, et puis. Mais elle est très
belle. Mais j'aime pas, moi, j'aime bien voir le positif. La bouteille est toujours à moitié pleine d'eau ou de thé pour moi. Et donc, après, ils ont. Quand j'étais à la radio pour mon premier petit boulot, quoi, et pendant 15 jours, ils ont monté le centre de télé régional, ouais. Et le directeur a eu l'idée, il a été le seul d'ailleurs en France, d'organiser un concours public.
Un concours, ouais.
Oui. Et pour demander aux filles d'envoyer photo curriculum vitae pour devenir la téléspeakerine de Télé Auvergne, le futur France 3 Auvergne, bien après. Alors donc, moi je sors du studio radio et on me met devant la caméra. Blue jean, parka, basket, pas maquillée, jamais allée chez le coiffeur, enfin bref. Pas du tout le style speakerine de l'époque. Hein. Et ils me font parler, ils me posent des questions, je réponds. Et puis ils me disent, il faut vous présenter. J'ai dit non, pas dans ma ville de province. Puis après, je me suis rendu compte que j'adore les challenges. Et puis, je me suis présentée. Il y a eu une présélection, les 44 sur scène. Les 6 les plus applaudis ont été gardés. Chacune des 6, on est passé à l'antenne. Et j'ai été élue par les Auvergnats et le Massif Central à 70%.
À 70%.
Et comment voulez-vous que je n'aime pas les gens? Pour moi, dans la vie, le plus important, c'est le contact humain.
Alors, vous allez les retrouver au
Casino
de Paris. Alors,
je suis bien contente de vous voir.
Ah bah, j'espère voilà. Bien, parce que je suis un être humain. Ça me rassure.
Un être humain.
Oui, mais mon équipe en doute, hein, je peux vous le dire. Alors, retour au Casino de Paris pour vous, Daniel Gilbert, avec les idoles Émilie Première, Mike Brandt, Joe Dassin, Dalida, Coluche, Claude François, que des morts, mais joués ici par des artistes. Comment ça va se présenter? Comme une émission de Émilie Première, c'est-à-dire que votre rôle, ça va être de les interviewer?
Oui, je présente. C'est-à-dire que c'est comme un midi première de gala. Oui. On l'a déjà fait, hein, en province et tout. Et on fera une tournée après. Mais, si vous voulez, je les présente. J'ai même fait mettre des choses qui sont arrivées dans le vrai midi première, par exemple, avec Coluche et tout. Il y a des choses qui étaient assez marrantes.
Qu'est-ce qui est arrivé avec Coluche qui va être rejoué, donc, dans
oui,
ce
spectacle?
Oui, enfin,
c'est un petit truc, mais.
C'est quoi?
Coluche, bon, c'est vrai que je m'entendais bien avec lui. Et alors, comme on était au 101, c'est-à-dire à l'opposé de votre studio.
Ouais, de l'autre côté.
Alors, quand on était au 101 et pas en province, à l'époque de midi première, eh bien, ça, il arrivait que Coluche vienne dans l'émission alors qu'il n'était pas invité, avec un pyjama rouge brillant, avec des rayures blanches. Il s'asseyait sur les genoux de Bernadette Lafont, une fois, une autre fois sur les genoux de Jean Manson. C'est marrant, jamais sur les genoux des mecs. Et la dernière fois...
Parce qu'il n'est pas Ringo.
Il est venu et on avait fait un repas... On avait... suggérer un repas choucroute comme faisait Véronique Sanson quand elle était en Californie avec son musicien de mari. Et on avait reconstitué ça. Il y avait Michel Berger, Jonas, enfin tous ceux qui... Alain Chamfort et tout. Et tout d'un coup arrive notre ami avec ses croissants, Coluche, qui me dit « Salut ma poule ». Pour ça que j'ai fait la ferme célébrité après, évidemment. Ça s'imposait. Et il avait des croissants. Et puis tout d'un coup, il vient s'asseoir à la table, il prend de la choucroute, il la met sur la tête, il dit « Voilà, je suis coiffé comme Daniel ».
Et c'est ça qu'on va pouvoir voir?
Non, enfin non, il ne prendra pas la choucroute, mais il viendra avec les croissants.
Il y a quelque chose dans leur façon de chanter qui s'approche donc de...
Ah mais, ils vous donnent l'illusion.
D'accord.
Et il y a des...
Donc ce sont des imitateurs. Ou pas?
Eh ben non, c'est très
alors,
difficile.
Ce ne sont pas des sosies,
ce ne sont pas des imitateurs, mais ils vous donnent l'impression d'avoir Mike Brandt, d'avoir Dassin, d'avoir Claude François. Ils le font tellement bien, Dalida.
Et vous, ça vous fait pas de peine parce que vous avez connu ces gens-là, en fait. Il n'y a pas des moments où ça...
De la peine, non.
Non.
Ça me fait pas de peine, moi. J'essaye de vivre. Je suis pas nostalgique du tout, moi. Mais je fais partie de la nostalgie, hélas. C'est l'âge, hein, mon pauvre Patrick Hernandez. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On va pas reculer. Hein. Donc, non, mais c'est pas que ça me fait pas de peine, mais ça me rappelle quand même des bons souvenirs. Mais je vois les gens sont tellement heureux parce que une chanson, elle peut être de 2019 ou elle peut être des années 70. Ou 90. Ce qui compte, c'est le plaisir l'interprète donne dans l'instant à la personne qui l'écoute. C'est ça.
Vous, quelle est votre chanson, Daniel Gilbert? S'il y avait une chanson, ce serait laquelle? Laquelle vous avez rencontré, je ne sais pas, l'amour ou...
Non, c'est pas ça. Non, vous savez, moi, j'étais mon idole quand j'étais étudiante à Clermont, c'était Brassens.
Et vous l'avez rencontré d'ailleurs?
Ben oui, il m'avait envoyé un petit mot quand j'ai commencé l'émission. Après, il est venu dans l'émission. On avait fait une émission aussi, il y avait Jacques Dutronc en même temps. Et puis après, il m'avait demandé de présenter sa première partie pendant un mois, alors que lui faisait 6 mois, à l'ancien Bobino chez Félix Vitry. Et moi, j'étais drôlement contente.
Daniel Gilbert et les Idoles de Midi Première, la tournée commence en septembre prochain en France et à l'étranger. Et puis je rappelle bien sûr le livre, une autobiographie, Il faut que je vous raconte, chez Talent Édition, dans laquelle Daniel Gilbert parle de Joe Dassin, ses chemises en jean, ses reprises de standards américains. C'était un des habitués de Midi Première. Allez, salut les amoureux.
Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Pas demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Salut les amoureux, c'était signé Joe Dassin en 1972, une adaptation française du titre de Steve Goodman, City of the New Orleans, dans le NRV.
Un new rendez-vous?
Oui.
Non. The new rendez-vous.
Ça plane toujours pour Plastic Bertrand, il est en tournée lui aussi comme Patrick Hernandez avec Star 80. Et ça plane depuis 1977 avec un tube de plus de 40 ans, repris partout avec plein de versions. Mais laquelle est sa préférée?
Il y a une version de U2 qui est pas mal, c'est pas mal. Il y a une version aussi de Sting que j'aime beaucoup, mais aussi les Red Hot Chili Peppers. C'est peut-être celle que je préfère finalement. Et vraiment aussi un cadeau qu'on m'a fait l'année passée, c'était Metallica qui vient jouer en Belgique à Anvers. Et puis ils m'ont fait ce cadeau pour l'anniversaire de Plastic Bertrand. C'était mes 40 ans de carrière. Ils m'ont fait un sapin pour moi, mais de délirant, de fou furieux.
Alors on avait trouvé le son de Metallica, mais il était trop pourri. On a une autre
mais
version,
c'est pourri,
celle de Sonic Youth. Une version parmi
j'adore,
les centaines de versions qui ont été faites, celle de Sonic Youth. C'est bizarre parce que ça plane pour moi, en fait, ça commence par un mensonge, celui sur votre âge. En 77, vous n'aviez pas l'âge que vous prétendiez avoir.
Mais non, mais j'ai voulu inventer un personnage et c'est surtout pas collé à la réalité. Si je fais ce métier, c'est pour inventer des choses. Et quand on m'a dit quel âge tu as, j'avais 20 ans, j'ai dit j'en avais 16, quoi. Et
ça marche mieux, c'est vrai, d'avoir un truc comme ça à l'âge de 16 ans.
Mais c'est absolument génial. Et je regrette absolument pas tous ces mensonges, parce que c'est pas des mensonges, c'est juste
la construction d'un personnage.
Exactement. Un peu comme vous le faites dans les romans. On essaie de construire quelque chose. Et c'est ça qui m'éclate complètement. La réalité, c'est pour être réel, ça m'intéresse peu, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'inventer un personnage. Et mon rêve, en fait, c'était de pouvoir changer pratiquement de nom à chaque single. Évidemment, le métier était tellement difficile.
J'aurais été votre producteur, je vous l'aurais interdit.
Eh bien, il me l'interdit.
Tu parles.
Mais j'aurais aimé faire ça, inventer chaque fois un personnage, faire d'autres musiques. Et si on regarde un peu ma carrière, entre Sentimental, moi, La Planète ou Ça Plane, c'est complètement différent. Mais c'est ça qui m'excite, surtout pas correspondre à ce que les gens entendent de vous.
Justement, parce que ce titre n'aurait pas existé sans tout votre passé musical, le conservatoire, on en parlera, plein d'autres groupes. Depuis l'enfance, le Bison Scout Band, les Pélicans, Passing the Times, et puis ce groupe, ce son, avec ce premier album, Hubble Bubble. Makes no difference if you're rich or poor, or any need to smart or down. A woman's place in this old world is under some mistake. Must be alien, must be hard, but to make a little fancy life. A pretty season by your mind, and for some that's alright. Ça ressemblait à quoi vos concerts à l'époque? J'étais un peu provoquant avec des enseignes nazies.
Pourquoi un peu? Non. Mais on rigolait tous ces codes en fait. Ce qu'on voulait surtout pas, c'est qu'on soit récupéré par les maisons disques. Et à un moment, pourquoi j'ai fait ça plein en fait, c'est pour quitter justement quand j'ai compris que les grosses majors avaient récupéré tout ce mouvement punk et ça n'avait plus qu'un sens. Moi, quand j'étais môme et quand j'ai voulu faire de la musique, c'est parce que j'étais complètement contre la consommation. Le nom Plastic Bertrand vient de là aussi. C'est moi je chantais, j'avais un sac poubelle, j'étais batteur, je chantais. Mais
avec une formation de conservatoire quand même.
Oui,
oui
mais
donc
oui,
une formation classique aussi.
Oui, mais je regrette pas aujourd'hui. Ah, mais à l'époque, j'ai tout quitté pour faire ce groupe Hubble Bubble qui était vraiment trash de chez trash. Et encore une fois, s'inventer des vies, surtout pas qu'on nous impose des choses.
Ça veut dire que quand vous faites ce titre, Ça plane pour moi, vous aviez déjà pris des distances avec le mouvement punk, puisqu'il y avait une sorte de parodie de ce que pouvait être le punk.
Mais évidemment, ce que j'ai compris très très bien une fois que Malcolm McLaren avait signé les Sex Pistols, j'avais très très bien compris que c'était fini, complètement fini.
Alors, je relisais votre autobiographie, Ça plane des lyres et des larmes. Vous avez fait plein de métiers, c'est-à-dire que Plastic Bertrand, en effet, c'est une multitude de personnages. Vous avez été producteur de musique contemporaine turque.
Oui, j'ai adoré. C'est pointu.
Ah, c'est pointu, ça, je peux imaginer.
C'est pointu, mais c'est bien parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent, parce que c'est compliqué à réaliser. Mais j'étais vraiment... C'est pas seulement un trip, c'était vraiment... J'ai vécu à Istanbul, j'ai enregistré moi-même, j'ai fait des prises de son dans des églises, dans des mosquées, avec une claveciniste sur des instruments anciens. C'était un truc complètement fou, mais donc, je suis hyper fier aujourd'hui. Mais évidemment, pour financer tout ça, j'ai continué à chanter, juste pour assurer mes conneries, quoi.
Star de roman photo en Italie dans les années 80, mais quand je dis star, je pèse mes mots. Ouais, véritablement, ouais. Star, on s'arrachait les romans photo avec Plastic Bertrand.
Ça veut dire qu'on vendait 1 million d'exemplaires par toutes les semaines.
C'est énorme.
C'est complètement fou, et il y avait vraiment beaucoup d'argent, et on était traités comme vraiment des hyper stars, vraiment. J'avais 5 assistants, c'était les Ross, machin, c'était du délire complet, quoi.
Des romans photos.
Mais 1 million par semaine, donc pour l'édition, c'est un rêve, quoi. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, et j'ai vécu à Milan, des trucs incroyables. Et ça m'a permis aussi, dans mon truc de délire, quand j'étais à Milan, mon rêve, c'est toujours l'inaccessible. Et là, j'ai enregistré un disque avec les chœurs de la Scala de Milan. Personne ne peut imaginer ça, mais je l'ai fait, quoi. Et ben, c'est ça qui m'amuse dans la vie. C'est justement chercher le truc qui est impossible.
Alors, il y a quand même quelque chose qui vous a résisté, c'est le cinéma. Ouais. Dernièrement, il y a eu un film avec Mocky, qui est passé un peu inaperçu, comme les derniers films de Mocky.
Mais tourner avec Mocky, c'est fantastique.
C'était génial. Ouais.
Mais tout avec Mocky, tout ce qu'il veut.
Et vous avez mis dans quel rôle?
Alors, je joue un espèce d'évêque pourri complètement, mais vraiment, une espèce d'ordure, vraiment, qui fout la merde, qui vient prendre le pognon de tout le monde, qui est vraiment un salopard de chez salopard. Et je sais pas pourquoi Mocky a pensé à moi, je sais pas.
Surtout qu'il n'y a pas eu de grande carrière, il y a eu le film de Serge Leroy.
Oui, c'est ça. Non, mais il n'y a pas de carrière. Non, mais
c'est une rencontre.
Parce que je pense que je suis très très mauvais comédien, tout ça.
On vous proposait que des films de cul, j'ai pu lire.
Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai.
Beaucoup de films de cul.
Ça c'est vrai. J'ai refusé, mais j'avais une petite famille, j'avais des enfants, donc c'était compliqué.
Mais à quel moment on vous a proposé ça et pour quelle raison? C'était en France ou en Italie?
Un film de cul?
Ouais.
Oh, partout, vraiment. Partout, vraiment.
Ça veut dire qu'on pensait quand même à vous pour ça.
J'aurais pu être le Rocky si Freddy beige, j'aurais pu l'être. Non, mais c'est extraordinaire que tourner avec Mocky, en face de moi, j'avais Michel Serrault.
Ouais,
et on a des scènes face à face. Et j'ai vécu 3 semaines de tournage avec Serrault. On dînait tous les soirs ensemble avec sa femme. Et rien que pour ça, merci Jean-Pierre.
Plastic Bertrand, vous avez donc choisi ce pseudo. Comment vos parents ont compris ce choix et ont regardé ce parcours de musicien?
Bah, ils ont le parcours de musicien, ça ne posait aucun problème tant que j'étais au conservatoire, évidemment, là c'est rassurant. Et puis quand j'ai commencé à tourner avec mon groupe punk Hubble Bubble, là c'était moins...
Ils ont décroché?
C'était beaucoup moins clair. Et puis une fois que je suis passé chez Drucker, c'est revenu, quoi. Donc
c'est arrivé très vite, c'est en 77 vous arrivez chez Drucker.
Oui, c'est ça, mais mon album Hubble Bubble, c'était en 75, donc
ouais, 2 ans plus tôt.
Il y a quand même un malaise pendant quelques années, mais il y a un truc exceptionnel chez ma maman, c'est que elle m'a toujours dit, moi je suis le dernier d'une fratrie, j'ai un frère et 3 sœurs, et elle m'a toujours dit, tu sais, maman est ukrainienne.
Oui, d'origine ukrainienne.
Voilà, ouais. Et elle me disait avec son merveilleux accent, elle me disait, chérie, tu es un peu bizarre, mais je t'adore, surtout fais toujours ce que tu as envie. Et ça, c'est extraordinaire, une maman qui voit qu'on est différent et qui assume complètement et qui te rassure, quoi.
D'ailleurs, vous avez une histoire familiale, puisque vous parlez de ça, j'allais pas y revenir, mais vous avez une histoire familiale plutôt difficile, c'est-à-dire que vos parents se sont rencontrés dans des camps de concentration.
Ouais, tout à fait.
Dans des camps de concentration, elle d'origine ukrainienne, lui d'origine française. Et je lisais que quand vous étiez enfant, il fallait que vous cachiez en Belgique ses origines slaves. Pour quelle raison, Bertrand?
Parce qu'on renvoyait toutes les femmes, toutes les Ukrainiennes, les Russes, on les renvoyait chez elles, quoi. Et, Et surtout, il y avait déjà une espèce de racisme comme ça, en disant, pourquoi ils viennent là? Pourquoi ils viennent s'installer chez nous? C'est pour ça que moi, je suis allergique absolument à tous les racismes, parce que moi, je l'ai vécu. J'ai beau être blond et avoir les yeux bleus, moi, j'ai vécu le racisme. Et vraiment, en tant môme, il fallait se cacher, il fallait surtout pas que je parle ukrainien, il fallait surtout pas, il fallait m'intégrer. Mais ceci dit, bon, encore, je reviens à ma maman qui me disait dans le creux de l'oreille, non, reste comme tu es. Mais elle voulait pas que je souffre, donc elle me disait, soit dans la moyenne, quoi. Mais c'est pas ça qu'elle voulait dire, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on écoutait comme musique chez vous? Je sais que votre premier choc musical, ça a été un concert de Claude François. On peut comprendre.
Après,
on peut devenir punk, il n'y a aucun problème.
Mais justement,
je vois très bien. Mais qu'est-ce qu'on écoutait chez vous? Qu'est-ce que vous associez à vos parents, en fait, comme musique?
Il n'y avait pas beaucoup de musique chez moi. Pas beaucoup de musique et
alors que même
moi, c'était,
musique...
c'était surtout mes frères et sœurs, tu vois, qui étaient fans de Claude François. Bon, ils m'ont traîné, j'avais 8 ans ou 6 ans, ils m'ont traîné contre Claude François, mais finalement, je regrette pas parce que ce côté complètement grandiloquent et tout d'un coup, on avait l'Amérique chez nous à portée de chez nous, quoi, parce que il avait des éclairages, des danseurs, ça bougeait, et puis j'ai compris que ce côté lumière, vraiment strass, me plaisait beaucoup et que c'était pas ma cam quand même. Et puis j'ai très vite passé les Who, c'est pour moi c'était très important.
Marc Bolan. Quand on voit Plastic Bertrand, on comprend bien quelle est l'affiliation avec Marc Bolan. On va faire tout de suite le questionnaire 100% France Inter pour vous.
Et maintenant le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous.
Ça c'est normal. Mais tellement rare aujourd'hui.
Alors le questionnaire 100% France Inter, ce sont des questions des stars de la chaîne qui ont déjà été posées, qui ont déjà servi.
D'accord.
Mais on les ressort puisque nous aussi on est écolo. Il y a 3 questionnaires, vous choisissez le vôtre. Titre, ça plane pour moi ou alors sentimental moi ou super cool.
Super cool.
Vaut-il mieux vivre une existence brève et intense à la manière d'Achille, de Jeanne d'Arc, de James Dean ou de Kurt Cobain, ou plutôt une vie longue, lente et sans trop d'éclat à la manière de la vénérable Jeanne Calment qui mourut à l'âge de 121 ans?
Une question d'Ali Rebéi.
C'est clair que moi, je suis plutôt du style Kurt Cobain, quoi. Mais tout le temps. Et c'est vrai que je fatigue les gens. J'ai beaucoup de gens autour de moi, pas parce qu'ils m'aiment bien, simplement parce que je les use tous les jours et j'en ai besoin de plein autour de moi pour faire la continuité. Non, c'est sûr. Et jamais imaginé un jour me retrouver 45 ans plus tard en train de faire. Je pensais que je crevais bien avant, quoi. Et là, je suis toujours là.
Surtout que vous avez eu les périodes drogue.
Ben oui, parce que c'était l'époque comme ça, quoi. Et me retrouver en forme en plus. Bon, aujourd'hui, c'est pas mal, Jeanne Calment, finalement, je me dis.
Vous allez y arriver. Deuxième question, celle de Guillaume Meurice.
Quelle est votre blague préférée?
Oh là, je suis très mauvais en blague, mais je suis très, très, très mauvais. Je suis incapable de raconter une histoire drôle, vraiment, je sais pas.
On est ça en commun.
Je sais pas.
Troisième question, celle de Laure Adler.
Combien avez-vous d'identité?
Oh là là, alors ça c'est une question que j'adore parce que j'en ai depuis que je suis petit, je m'invente des personnages tout le temps. C'est infini, quoi. Je me lève le matin, j'ai envie d'inventer un personnage. C'est pour ça que j'ai des garde-robes très très diverses. Je peux m'habiller vraiment hyper stretch, je peux m'habiller en complètement déglingue totale. Et puis je peux passer des soirées déglingue, je peux passer des soirées très très entre guillemets culturel. J'adore aller dans les musées, mais j'adore aller boire un coup.
Vous avez été même propriétaire d'une galerie d'art.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Non, non, mais
ouais,
c'est ça. Quand vous dites les musées, je sais que.
Voilà, mais c'est
pas simplement.
En fait, moi, j'aime pas me ressembler. J'ai un problème avec ça. J'aime être quelqu'un d'autre, mais tout le temps.
Plastic Bertrand en tournée avec Star 80. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce parcours hors norme, un livre, Ça plane, délires et des larmes, on peut le trouver aux éditions du Rocher. Le son de Malik Judy qui nous donnera de belles sueurs en live le 30 avril prochain dans le NRV. Et bien voilà, le NRV, première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes. Dans 15 minutes avec ça.
Quel calme, hein. C'est vraiment la vie rêvée ici. Je me demande ce qu'on fout à Paris. On mène vraiment une vie de con.
Retour à la terre, le bonheur est dans la ferme. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.